Bonjour à tous, vous êtes en compagnie des élèves du lycée Saint-Louis à Châteaulin. Troisième rendez-vous aujourd'hui sur notre thématique, l'Europe. Après Bernard Cunin, vice-président de la Maison de l'Europe à Brest, Gaëlle Vigouroux, conseillère régionale et vice-présidente du Parc naturel régional d'Armorique, nous recevons aujourd'hui Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, député de la 6e circonscription du Finistère et conseiller régional à la région Bretagne. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, bonjour.
Bonjour.
Notre tour d'horizon des questions européennes continue sur Radio Évasion. Au programme de cette émission, nous souhaitons vous poser de nombreuses questions autour de l'Europe et de son impact sur notre territoire. De Camaré à Carré, en passant par Plougastel d'Aoulas, l'Europe est-elle visible sur nos territoires? C'est une des questions que nous vous poserons. Bien entendu, les élections européennes se rapprochent à grands pas. Nous n'oublierons pas d'aborder la question des enjeux européens qui sont bien au-delà de nos propres enjeux nationaux. Commençons avec Bastien, qui va aborder avec vous la thématique du lien Europe et territoire.
Monsieur le Président, quel est le rôle de l'Union européenne au niveau local?
Oh, il est extrêmement important. Regardez, dans notre circonscription et même notre département, qui est extrêmement agricole, en fond, il y a une part de l'activité économique liée à l'agriculture qui est importante. Que serait l'agriculture finistérienne sans la PAC? C'est-à-dire sans que la politique agricole commune européenne vienne soutenir les revenus des agriculteurs. Donc très concrètement, l'Europe, c'est ça. Même si cela ne concerne pas directement notre territoire central, mais toute la politique européenne de la pêche est aussi extrêmement importante, qu'il s'agisse de, par exemple, le renouvellement des flottes, etc. On pourrait aussi citer le programme breton que nous conduisons au Conseil régional pour fibrer l'ensemble du territoire breton pour que le très haut débit soit accessible à tous dans la décennie qui vient. Là aussi, les fonds européens sont très très fortement sollicité. Alors, je pourrais rajouter Erasmus, ça concerne aussi les jeunes, ça vous concerne donc au premier chef, mais ça signifie qu'au fond, le budget européen est sollicité pour des opérations très concrètes de notre vie, que ce soit la vie agricole, je citais la vie de la pêche, mais aussi des infrastructures comme celles qui concernent le numérique. Mais on pourrait démultiplier les exemples. Il y a le programme Leader aussi qui est beaucoup sollicité pour la vie associative ou même pour des réaménagements d'infrastructures publiques ou d'équipements publics dans les communes. Donc en vérité, l'Europe est présente dans toute l'activité qui est développée sur notre territoire.
L'Europe joue-t-elle un rôle sur notre territoire?
Celui que je viens de vous décrire part à la fois du soutien à l'économie, du soutien aux infrastructures. Donc oui, de ce point de vue-là, l'Europe est partout. Puis ajoutons autre chose, c'est que sur des mesures très concrètes, par exemple le prix du téléphone portable, je crois en première, tout le monde doit avoir ou presque un téléphone portable. Ben, il n'y a pas si longtemps, si vous alliez à l'étranger, soudain votre forfait explosait. Si vous passiez un coup de fil de Belgique pour dire à vos parents vous étiez bien arrivé, par exemple. Désormais, il y a eu une volonté de l'Europe de faire en sorte que le téléphone portable coûte indifféremment pareil où que l'on soit en Europe. Donc c'est aussi sur la consommation de tous les jours des règlements importants pour protéger le consommateur aussi, faire en sorte que on voit clair lorsque on souscrit par exemple un emprunt ou tous les actes de la vie quotidienne, il y a un droit de la consommation qui est extrêmement strict au bénéfice de la protection des consommateurs. Alors ce sont beaucoup de choses, on ne sait pas toujours qu'elles viennent de l'Europe, on ne le sait pas, mais on voit des changements qui s'opèrent au fond sans bien mesurer l'origine, mais voilà des exemples concrets. Donc l'Europe a un rôle sur notre territoire, mais surtout dans chacune de nos vies.
N'est-ce pas réducteur de considérer l'Europe comme un financeur de projets?
Ah si, c'est très réducteur. Mais il faut bien que je réponde aux questions qui me sont posées, y compris celle-là. Donc vous avez raison. L'Europe, c'est un ensemble qui a une communauté de destin. Songez que vos professeurs vous l'enseignent, que si nous avons échappé à la guerre depuis 1945, alors que si vous prenez les siècles qui ont précédé, de manière très régulière, la France était un terrain de guerre. L'Allemagne aussi, l'Espagne, d'autres pays. L'Europe, c'est d'abord une communauté de destin qui a été voulue après la Seconde Guerre mondiale pour que ce soit un espace de paix. Et ça, c'est fondamental. On croit que c'est abstrait. Mais ce n'est pas abstrait du tout. Songez que moi, mes grands-parents ont connu la guerre, avec tout ce que cela représente de malheur et de destruction. Donc l'Europe, c'est d'abord un espace de paix. Ensuite, c'est un grand marché qui a permis de développer de manière très forte notre vie économique. Mais ça ne peut pas rester cela. Et aujourd'hui, l'Europe doit se renforcer, doit se muscler pour se protéger. L'Europe est encore aujourd'hui un marché trop ouvert, de mon point de vue. Vous savez, les Chinois ou les Américains, ils ne s'embarrassent pas. Hein. Quand ils souhaitent protéger leur économie, ils ont tendance à mettre des barrières douanières, grosso modo, à ne pas permettre un libre-échange total. En Europe, il me semble en tout cas que l'Europe ne protège pas assez et ne se protège pas assez, donc ne nous protège pas assez. Et ça, c'est un des enjeux, à mes yeux, de la prochaine échéance électorale. Donc l'Europe, c'est une communauté de destin. Si l'Europe était plus soudée et plus puissante, elle serait la première puissance du monde. Et aujourd'hui, si vous voulez, il faut trouver un équilibre multilatéral. On ne peut pas laisser Américains et Chinois dans cette confrontation que l'on connaît, notamment au plan commercial ou dans les jeux d'influence politique, et avoir une Europe qui est un nain politique et un géant économique. Donc il nous faut grandir politiquement pour porter nos valeurs et ce que nous voulons comme équilibre du monde. Donc c'est un grand enjeu que l'Europe devienne adulte.
L'idéal européen ne fait plus rêver. Comment expliquer ce changement de regard ?
Vous savez, a-t-il déjà fait rêver ? L'enjeu, c'est pas de rêver, c'est de construire. Bon, c'est vrai que pendant tout un temps, quand petit à petit l'Europe est née et a grandi, ce qu'on appelle la communauté européenne, il y avait une perspective qui était mieux identifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est exact. Je ne sais pas si ça a fait beaucoup rêver. En tout cas, ça a fait beaucoup espérer, notamment les générations, une fois encore, qui avaient connu la guerre. Où là, ceux qui nous ont précédés se sont dit on va construire un espace de paix durable. Et ils ont réussi. Ça, c'est un héritage extrêmement précieux. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tant de rêver que de dire que l'Europe est construite quand même. Il y a de belles fondations, il y a une liberté de circulation. Moi, quand j'avais votre âge, j'allais souvent en Allemagne, il y avait encore des contrôles aux frontières. Il fallait montrer sa carte d'identité, il fallait avoir toute une série de formalités qui bridaient les échanges. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire plus bloc, qu'il y ait plus de solidarité européenne qu'il n'y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fédération d'États, mais qui, à la fin des fins, regarde chaque État regarde son intérêt propre. Et à ce moment-là, ça ne peut pas bien marcher, parce qu'il faut parfois mettre des choses en commun. Vous savez, c'est comme une communauté de communes, pour parler de chez nous plus concrètement. Soit il y a un esprit communautaire qui fait que tous ensemble, sur un territoire donné, on souhaite avancer de manière solidaire, soit on considère une communauté de communes comme un guichet pour des projets de chaque commune. Ben, si c'est ça, ce n'est pas une communauté, c'est un guichet. Bien, l'Europe, aujourd'hui, comporte encore trop d'États qui jouent perso, si je puis dire. Quand les Polonais, par exemple, renouvellent leur flotte d'hélicoptères ou différents éléments de leur défense et qu'ils se tournent vers les Américains pour s'équiper et pas vers, par exemple, les Français, mais pas seulement, ou les Allemands, qui ont là-dessus des capacités à répondre à leurs besoins, bien, on voit bien que c'est un coup de canif dans la solidarité européenne. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour mieux lier les différents États au service d'un destin européen commun.
Monsieur le Président, je souhaiterais aborder avec vous la question de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. La première Assemblée parlementaire franco-allemande s'est réunie ce 25 mars à Paris. Quels sont les objectifs de cette nouvelle Assemblée ?
Alors le Président Wolfgang Schäuble et moi-même avons souhaité créer cette Assemblée parlementaire. Alors pour que vos auditeurs ne s'inquiètent pas, il ne s'agit pas de créer une Assemblée de plus. Il s'agit de faire en sorte que 50 députés français et 50 députés allemands, représentant toutes les sensibilités à due proportion, se réunissent pour, premièrement, veiller à ce que les engagements pris par les gouvernements se concrétisent, parce que des sommets franco-allemands, parfois on en a, où les chefs d'État et de gouvernement disent ben voilà ce qu'on va faire, eh bien nous, parlementaires, nous voulons nous assurer qu'ils vont vraiment le faire. Ça, c'est une mission de contrôle. La deuxième chose que l'on souhaite aussi, c'est que lorsque l'on traduit le droit européen en droit français ou en droit allemand, on le fasse de la même manière. Parce que parfois, curieusement, quand on transpose, vous avez peut-être entendu parler de cette notion de surtransposition. C'est-à-dire qu'on prend une règle européenne, ensuite il faut l'inscrire dans notre droit français, puis les Allemands dans leur droit. Mais si on n'applique pas les choses exactement de la même manière, on crée des distorsions qui compliquent finalement la vie de ceux à qui ces règles s'appliquent. Donc nous voulons avoir une parfaite communauté de traduction, si vous voulez, dans notre droit, de droit européen. Et troisièmement, on veut aussi pouvoir se saisir de problèmes concrets qui se posent à nos compatriotes transfrontaliers. Il y a beaucoup de Français qui vivent en France et travaillent en Allemagne, ou qui travaillent en France et vivent en Allemagne. Et c'est vrai aussi pour les Allemands. Et alors, il y a là toute une série de différences. Par exemple, si vous avez un enfant et que vous voulez le placer dans une crèche, eh bien, les différentes CAF des différents pays ne vous reconnaissent pas les crèches comme étant des crèches. Vous voyez, pour prendre cet exemple concret, y compris les règles applicables ne sont pas les mêmes. Si on veut scolariser un enfant parce que c'est plus commode, parce qu'on passe la frontière pour aller travailler ou autre dans un pays ou dans l'autre, c'est tout de suite extrêmement complexe. Donc, nous voulons aller là, de manière fine, dans le détail de la vie quotidienne. C'est pour qu'au fond, il y ait une fluidification de la possibilité de travailler en Allemagne, de vivre en France ou l'inverse. C'est rapprocher le peuple français et le peuple allemand par la vie concrète.
Cette nouvelle assemblée ne risque-t-elle pas de perturber le fonctionnement de l'Union européenne et de susciter la jalousie de la part des autres États membres ?
Vous savez, ma grand-mère disait, il vaut mieux faire envie que faire pitié. Hein. Donc, vous savez, le couple franco-allemand a toujours été moteur. Et c'est vrai, Monsieur Juncker, d'ailleurs, le patron de la Commission européenne, le disait dans son discours lors de la signature à Aix-la-Chapelle du traité entre Monsieur Macron et Madame Merkel. Il disait, quand la France et l'Allemagne avancent vite main dans la main, il suscite des envieux. Mais lorsque la France et l'Allemagne ne sont pas ensemble main dans la main, alors il ne se passe plus rien. Donc, c'est un moteur, ça peut faire envie aux autres, mais nous l'avons clairement dit avec le président Schäuble, si d'autres veulent que l'on mette au point quelque chose d'identique à ce que nous avons fait avec les Allemands en matière de l'Assemblée parlementaire, nous sommes tout à fait ouverts pour le faire. Si demain les Italiens le souhaitent, les Espagnols ou d'autres, nous le ferons. Mais il faut donner l'exemple parfois, ou l'impulsion.
Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous aborderons ensuite les enjeux des élections européennes et la montée des populismes. Quels sont les enjeux des prochaines élections européennes dans le contexte actuel ?
Les enjeux, on les a un peu brossés tout de suite hein, sur la pérennité des grandes politiques publiques européennes, le fait que l'Europe se muscle politiquement, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas qu'une juxtaposition d'États où chacun un peu égoïstement chercherait son propre bénéfice sans vouloir construire un continent fort. C'est-à-dire, l'enjeu fondamental, c'est de construire une Europe puissance. Et que par conséquent, sur le plan de la défense, sur le plan de la diplomatie, sur le plan du commerce international, sur le plan de la protection des frontières, de la gestion solidaire des migrations, sur le plan des échanges entre les jeunes générations, eh bien, il soit fait beaucoup plus, et de manière dynamique, et pas simplement au cours de réunions qui durent des heures et des heures et qui accouchent d'une souris. Donc c'est qu'il y ait une volonté politique forte. Ensuite, c'est aussi un enjeu de valeur. Aujourd'hui, clairement, les différents phénomènes de crise ou les protestations que l'on vit ici ou là font que l'on trouve commode de dire « c'est la faute à l'Europe ». Et d'ailleurs, les hommes et les femmes politiques françaises, comme ceux des autres pays, ont une très lourde responsabilité. Parce que parfois, ils ont trouvé commode de dire « c'est la faute à Bruxelles ». Ça, en Bretagne, des fois, on aime bien dire c'est la faute à Paris. Et en Finistère, parfois, on dit c'est la faute à Rennes. Vous savez, on aime bien faire porter une responsabilité un peu plus loin que chez soi. Bon. Non, l'Europe, c'est le Conseil des ministres européens et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui tranchent les choses. Donc on a souvent présenté l'Europe comme une vaste structure bureaucratique où il y a des technos qui comprennent rien à la vie. Enfin, ce sont des âneries. Simplement, qui ont été instrumentalisées pour fuir des responsabilités politiques et les faire porter à une espèce de monstre froid dont on ignorerait tout. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est sans doute aussi de clarifier la gouvernance européenne, de bien signifier qui est responsable de quoi, et surtout de faire toucher du doigt aux Français que notre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous voulons tous qu'elle s'améliore, pour les jeunes générations que vous représentez comme pour les générations futures, eh bien elle n'est pas possible et elle n'est pas souhaitable sans l'Europe. Donc l'Europe n'est pas un mal nécessaire, c'est un bienfait pour nous tous. Simplement, il faut, comme toute organisation, en corriger les défauts et en optimiser les atouts, qui sont nombreux, qui sont grands et qui demandent pour une large part à être explorés. Et il y a encore beaucoup à faire. Vous voyez, on peut parler en matière fiscale, en matière sociale aussi. Il n'est pas normal que, au fond, il y a un certain nombre d'États qui perçoivent des soutiens massifs des budgets européens, mais qui en profitent pour baisser leurs impôts. Ce qui fait qu'ensuite, ça fait une concurrence entre les entreprises. Et vous avez des entreprises qui délocalisent en Europe, parce qu'il y a une concurrence intracommunautaire. Ça, c'est pas l'Europe, ça. Ça, c'est de l'égoïsme national qui utilise les mécanismes aujourd'hui autorisés pour se livrer à des concurrences qui sont nocives et malsaines. C'est aussi dire qu'il doit y avoir dans chaque pays européen un principe de salaire minimum, pas le même. On sait très bien que demain, en Pologne, au Portugal, etc., on ne peut pas fixer un SMIC comme nous l'avons en France, mais que déjà, on fixe cette règle. Et que progressivement on fasse converger nos différents systèmes. C'est vrai aussi pour la protection sociale. Nous Français, on s'en rend même plus compte. Mais enfin, si demain on se casse une jambe, on va à l'hôpital, on nous répare notre jambe, et c'est entre guillemets gratuit. Pourquoi c'est gratuit? D'abord, c'est pas gratuit. Je veux dire, on sort rien de notre poche. Mais on paye tous ici, enfin, pas vous encore, mais vos parents, des cotisations sociales. On paye la CSG, on paye un certain nombre de choses qui permettent à tout le monde d'accéder à ses soins. Dans un grand nombre de pays européens, ce n'est pas le cas. Donc ces modèles de solidarité collective, il faut aussi les mettre sur la table. D'abord, il faut que les Français mesurent le système de protection que nous avons et que l'Europe s'en inspire pour faire qu'il y ait des garanties collectives quasi identiques offertes à tous les compatriotes européens.
Comment au cours de la campagne peut-on changer le regard de nos concitoyens sur l'Europe et réduire l'abstention ?
Ah, vous savez, quand on ne fait pas de campagne, on est sûr de perdre. Et quand on en fait une, on n'est pas sûr de gagner. Vous savez, les campagnes électorales, c'est vraiment l'école de l'humilité. Je vous engage, d'ailleurs j'espère qu'un jour, les uns et les autres vous engagerez dans votre commune, dans votre canton, dans votre région, ou pour l'Assemblée nationale, parce que vous verrez que c'est très formateur, hein, ça rend assez vite modeste, et ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est intéressant, parce que ça permet un dialogue avec tous les citoyens que vous voulez essayer de convaincre. L'enjeu, vous l'avez dit, l'enjeu premier, c'est à la fois de convaincre d'aller voter. Parce que vous voyez, récemment, il y a eu des manifestations, on dit il faut qu'on puisse faire du référendum, en veux-tu, en voilà. Ben, commençons par aller voter aux élections qui nous sont proposées, ce sera un bon début. Hein. Donc on verra bien si tous ceux qui veulent le référendum, ils vont voter. Ce serait une bonne idée qu'ils donnent l'exemple, qu'ils votent pour qui ils veulent, mais au moins qu'ils aillent voter. Bon. Donc, il faut convaincre de l'utilité de l'Europe, il faut convaincre de la réalité des enjeux. Et il faut convaincre aussi que si on ne vote pas pour une Europe qui permette la mise en commun de toutes ces richesses, de tous ces talents européens, alors on favorise les égoïsmes nationaux. Les égoïsmes nationaux, ça affaiblit toutes les nations qui le pratiquent. Et surtout, comme le disait le président Mitterrand lors de son dernier discours, le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, il faut absolument s'engager, convaincre, mobiliser, et ce qui me concerne en effet, avoir une vision pro-européenne et non pas nationaliste.
Ne craignez-vous pas que l'abstention altère les résultats des prochaines élections européennes ?
Si, bien sûr, je le crains. Je le crains. Mais ce que je me dis, c'est que ceux qui sont sceptiques, bon, bah, qu'ils restent chez eux, mais ceux qui sont convaincus que l'Europe est de grande importance, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français, de Françaises qui le pensent, eh bien, que cela soit présent à ce rendez-vous. Parce que ce n'est pas possible. Je le disais l'autre jour, là, je passais à Loquefret, non loin d'ici, et je parlais avec des agriculteurs qui me disaient, oui, l'Europe, j'y attendais. L'Europe, vous êtes pour la PAC, contre la PAC, pour l'Europe, contre l'Europe, comment on fait ? Donc, il va falloir aller voter activement. Et on a discuté là un bon quart d'heure sur les enjeux européens. C'est extrêmement important. Simplement, on ne le perçoit pas assez, on ne l'identifie pas assez. Donc, notre rôle, à nous qui sommes engagés politiquement, c'est de faire partager cet enjeu-là et d'essayer de mobiliser nos compatriotes pour aller voter. Mais vous, déjà, autour de vous, vous pouvez le faire. Hein, dans votre famille, dans les associations que vous fréquentez, partout. Songez qu'il y a des gens quand même qui se sont fait tuer pour avoir le droit de vote. Il y a des gens qui se font tuer aujourd'hui pour avoir le droit de vote. Et nous, là, un peu embourgeoisés, si je puis dire, on se dit, bah, tiens, comme on a le droit de vote, eh ben, on pourrait ne pas l'utiliser. Non, mais c'est une blague. C'est une blague dramatique, quand même. Regardez, parce que vous travaillez en histoire, en géographie, regardez une planisphère ou regardez un globe terrestre. Et regardez les pays dans lesquels on a le droit de vote. Vous verrez, si vous coloriez en noir tous ceux où il n'y a pas de démocratie, vous verrez que nous sommes très minoritaires. Et la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc il faut absolument utiliser la démocratie pour exprimer ce que l'on pense.
Une dernière question qui sort un peu du contexte, par rapport au discours du président d'hier soir. Dans la mesure de décentralisation nationale que le président a annoncée, et compte tenu de ce que vous avez dit ce matin sur France Bleu Brésil sur l'endettement de l'État, pouvez-vous imaginer une aide de l'Union européenne apportée aux collectivités locales ?
Vous êtes levé tôt, vous. Bah, écoutez, aujourd'hui, il faut être un peu sérieux. Si on ne maîtrise pas la dépense publique, c'est vous et vos enfants qui allez cheminer dans la vie avec les dettes que les gens de ma génération et celles d'avant auront contractées. C'est pas génial quand même de vous laisser ça en héritage. Bon. Donc, aujourd'hui, les collectivités locales, d'abord, elles ont des moyens d'agir. En France, on a une fiscalité quand même qui est extrêmement élevée, qui décourage parfois le travail. Parce que beaucoup de gens estiment que l'impôt est trop élevé en France. Mais on ne peut pas faire moins d'impôts et plus d'argent public et moins de dettes. Ça, moi, je ne sais pas faire. Bon. Donc, il va falloir... Et nous, Français, vous savez, on est pour la baisse des impôts et pour la hausse des services publics. On est un peu paradoxaux, nous, Français, vous savez. Mais c'est comme ça. Donc il va falloir faire des économies pour baisser la dépense, il va falloir baisser les impôts pour permettre aux revenus, à ceux qui travaillent, qui ont donc des revenus, d'en avoir une meilleure jouissance, si je puis dire. Et ensuite, s'agissant des aides publiques que vous évoquez, l'Europe déjà intervient beaucoup auprès des collectivités locales, mais là aussi, on peut pas... Il faut interroger la dépense publique. Qu'est-ce qu'une bonne dépense publique ? Qu'est-ce qui relève ? Et ça, c'est une question pour vous. Vous verrez quand... Non, j'allais dire quand vous aurez mon âge, ce sera déjà un peu tard, là, mais quand vous... Dans quelques années, ce sera une question utile à se poser. Qu'est-ce qui relève de la mise en commun des moyens par la dépense publique ? C'est-à-dire des taxes et impôts que nous payons. Et qu'est-ce qui doit relever du champ privé lucratif, du champ associatif, etc., etc., etc. Et à cet égard, il me semble qu'il y a une vraie réflexion. Le président de la République, d'ailleurs, a indiqué vouloir l'amorcer, cette réflexion, cette mise en œuvre, parce que des habitudes ont été prises et toutes méritent d'être réinterrogées. Donc je crois qu'il faudra regarder, et il faut le faire très rapidement, compte tenu de ces impératifs économiques. Baisse de la dépense publique, ça ne veut pas dire plus de subventions. Ça, c'est clair. Il faut se le dire, en responsabilité. Mais alors, ça veut dire aussi quelles sont les priorités que l'on se donne. Ça veut dire que les élus du Finistère, par exemple au conseil départemental ou de la région, devraient se dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Finistériens ou des Bretons? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on finance prioritairement? Et qu'est-ce qu'on finance moins ou on ne finance plus? Parce qu'on estime que ça relève d'autre chose que du financement public. Et faire de la politique, voyez-vous, c'est ça, en vérité. C'est Michel Crépeau, qui était un homme qui a été maire de La Rochelle il y a quelques années, avait eu cette formule, il disait « La politique, c'est essayer de faire le moins mauvais choix. » Quand je vous disais que ça rend modeste, c'est pas une blague. Donc ça veut dire qu'il faut poser les problématiques avec des citoyens qui acceptent de dialoguer de manière adulte, si je puis dire, et ensuite faire les choix qui paraissent les moins mauvais, donc les meilleurs pour notre vie en société. Mais nous avons atteint une limite qui est la limite des prélèvements obligatoires et qui est la limite de la dépense publique. Alors tout ça, tout le monde en est d'accord, mais lorsqu'on dit, et on sait par où qu'on commence les économies, là il y a beaucoup moins de gens d'accord. Ben, pour le faire, ça s'appelle le courage, dont le corollaire est l'impopularité, mais il faut faire son devoir quand on a choisi un mandat et en rendre compte.
Merci Monsieur Ferrand.
Merci de votre accueil, j'espère que mes réponses auront été claires et utiles.
Oui.